grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle.
Bonjour Pierre Moscovici.
Bonjour Olivier Mazerolle.
Avec Alexis Brezet du Figaro.
Bonjour.
Et Christophe Jacobicine de LCI.
Bonjour.
Nous sommes heureux de vous recevoir dans un contexte mouvementé sur le plan national et sur le plan international. Donald Trump, le président de la plus grande puissance du monde, a décidé que désormais les nations avaient le droit de décider par elles-mêmes de ce qui les intéressait, qu'elles avaient le droit d'appliquer en totale souveraineté les décisions qui leur permettent de se défendre et de protéger leurs intérêts. C'est un thème, la souveraineté, qui est au cœur également de la campagne présidentielle française. On va avoir l'occasion d'en parler. Mais tout d'abord, avec Donald Trump, on voit qu'il agit sur le plan de l'immigration, protection des États-Unis, sur le plan du commerce, protection des États-Unis. On parlera tout à l'heure du commerce, mais sur l'immigration, est-ce que l'Europe doit appliquer ce que préconise Donald Trump? Est-ce que chaque nation européenne doit désormais prendre en charge ses intérêts et décider de sa politique migratoire?
Dans votre introduction, il y avait quand même une sorte de valorisation de Donald Trump que je ne partagerai pas.
Non, car je ne valorise pas.
Je ne pense pas, pour ma part, que Donald Trump, ce soit tout à coup un message formidable, pour parler comme lui, qui signifie aux nations, enfin, votre temps est venu, vous pouvez faire ce que vous voulez, car finalement, la souveraineté des nations n'a jamais été remise en cause. Mais le message de Donald Trump, il est différent. C'est que l'Amérique agit pour elle-même, c'est qu'elle n'a plus d'agenda pour le monde, c'est que nous vivons dans un monde qui est un monde qui n'est plus celui de la mondialisation heureuse, comme disait Alain Minc, mais de la mondialisation dangereuse, et c'est un peu le chacun pour soi, et le tous contre tous. Et je pense que dans ce monde, on a certes besoin des nations, mais on a aussi besoin d'un ordre international, on a besoin d'une société internationale, on a besoin de coopération internationale, on a besoin toujours d'avoir des sociétés ouvertes et des économies ouvertes, c'est ce qui nous caractérise. Et pour en venir à votre point précis, pour ce qui concerne les réfugiés, je considère que ce message-là est un message qui est mauvais pour le monde. Il se trouve que chacun a son histoire personnelle. Quand je suis né, mon père était réfugié. Il est venu après la guerre, fuyant des persécutions, persécutions raciales, persécutions antisémites, et aussi persécutions politiques. Et la France l'a accueilli. La France est là, et l'Europe est là pour accueillir ceux qui sont justement victimes de persécutions, dont la vie est menacée, dont les convictions sont menacées. Et donc, avoir une société ou un monde dans lequel on répond à ces problèmes par des murs, ça n'est pas la bonne réponse. Et pour moi, la bonne réponse, c'est la réponse européenne, c'est-à-dire un système dans lequel on reconnaît à la fois les nations, car l'Europe n'est pas contre les nations, mais où en même temps, on est capable de coopérer et d'agir ensemble avec des intérêts partagés.
Depuis 24 heures, les ressortissants de 7 pays musulmans sont interdits de territoire aux États-Unis, même s'ils ont un visa, même s'ils y travaillent, ils ne peuvent plus y re-rentrer. Quelle est votre réaction ?
Là, pour le coup, il y a une réaction qui tient à la souveraineté des États-Unis. Le président des États-Unis a des pouvoirs, ce pays a son propre système de droit, et donc il ne s'agit pas de dire, il faut l'appliquer, c'est ce que font d'ailleurs les compagnies aériennes.
Ça ne vous choque pas ?
Mais bien sûr que ça me choque. Mais cela dit, après, vous êtes dans une société de droit, vous êtes obligé de respecter le droit souverain des États-Unis. Il faut que nous soyons capables d'opposer à ce type de comportement, à ce type de réaction, nos propres valeurs. L'Europe doit être capable d'organiser un sursaut. Et elle doit affirmer qu'elle ne partage pas.
Et le risque, c'est pas qu'elle ne soyons contraints ce type d'accueillir ou
qu'elle ne partage pas ce type
d'accord pour accueillir encore plus de migrants ou de réfugiés parce que les Américains vont fermer leurs frontières.
Mais n'ayons pas ce genre de fantasme. On parle là de réfugiés qui sont des réfugiés venant d'un certain nombre de pays qui, de toute façon, n'allaient guère faire les États-Unis. Il faut, je pense, prendre un petit peu de champ et regarder ce qui change.
Les Iraniens, les Syriens,
ce décret qui interdit aux ressortissants de ces 7 pays musulmans d'entrer aux États-Unis, est-ce que vous le condamnez? Est-ce que la Commission européenne, l'Europe, doit le condamner?
En tout cas, ça ne doit pas être notre pratique.
Non, mais vous répondez pas.
Je crois qu'il ne faut pas entrer dans le jeu qui consiste à condamner par avance. Nous allons coopérer avec les États-Unis de Donald Trump. Les États-Unis sont nos alliés, les États-Unis sont nos partenaires, les États-Unis sont nos amis. C'est notre histoire qui dit ça, et ça ne va pas changer avec ce président. Et donc, moi, je suis quand même dans une attitude assez prudente. Donald Trump a pris ses fonctions le 20 janvier. janvier.
Oui, à un moment, vous aviez même dit, après tout, on ne sait pas, peut-être qu'il sera...
Non.
Il y a un bon côté qui sortira comme Reagan. Aujourd'hui, vous diriez quoi?
Je pense que je suis d'abord dans le wait and see, parce que, comme on dit, on attendrait voir, parce qu'il n'y a pas encore d'administration, parce que les secrétaires d'État sont en train d'être confirmés par le Congrès, parce que le Congrès va lui-même affirmer ses propres positions. Mais je pense qu'il y a déjà des certitudes et des incertitudes sur Ronald Reagan et sur Trump. Et qui sont des inquiétudes aussi. Quelles sont les incertitudes? Je ne sais pas exactement quelle sera la politique économique de ce président. Je ne sais pas s'il va garder, par exemple, les standards internationaux en matière fiscale, en matière commerciale. Je ne sais pas s'il va, par exemple, revenir sur la régulation financière. Ce que je vois et ce que je sais, c'est un, que cette Amérique va d'abord agir pour elle-même, ce sera America First, ce qui veut dire aussi que, en termes de défense, par exemple, nous devons nous saisir de notre propre destin davantage. Ce que je vois, c'est que c'est la fin de la bonne gestion budgétaire aux États-Unis, donc il y aura des politiques expansionnistes avec des conséquences sur nous, en termes de taux d'intérêt, en termes d'inflation. Ce que je vois, c'est que l'option protectionniste, elle est déjà affirmée, puisque ces décrets, c'est la renégociation de l'ALENA, c'est la fin du TPP avec l'Asie. Je pense que les accords avec l'Europe ne sont guère, je pense. Et enfin, ce que je vois, c'est que ce sera une politique inégalitaire, c'est-à-dire plutôt pour les top 10% que pour ceux qui sont en bas. Et donc, tout ça, ce sont autant de défis pour nous.
Une dernière question sur l'immigration quand même. Dans votre livre, S'il est minuit en Europe, vous dites Angela Merkel, finalement, elle a un peu sauvé l'honneur de l'Europe par sa politique vis-à-vis des immigrés. Est-ce que vous n'êtes pas troublé quand même de voir que c'est cette politique-là qui a réveillé l'extrême droite en Allemagne, dans un pays qui était vacciné contre cela depuis 1945? Est-ce qu'on peut comme ça gouverner en ne tenant pas compte des instincts profonds de sa population, même s'ils sont fantasmés?
Ça me donne l'occasion d'avoir une réponse un peu plus précise à la question précédente. Est-ce que je condamne ou je ne condamne pas? Je vais le dire différemment. Je préfère l'attitude d'Angela Merkel à celle de Donald Trump. Je pense qu'Angela Merkel, elle a eu du courage et elle a pris une position qui sera historiquement fondée.
Mais ça fait monter l'extrême droite.
Elle a pris des risques et je pense que ces risques seront récompensés. Parce qu'au final, c'est elle qui est dans la vérité. C'est elle qui est dans la vérité de l'histoire de l'Europe. C'est elle qui est dans la vérité de nos sociétés ouvertes. C'est elle qui est dans la vérité de nos économies ouvertes. Et nous verrons ce que seront les résultats des élections allemandes à l'automne prochain. Je veux dire que je ne suis pas, moi, un conservateur, que si j'étais un Allemand, je voterais SPD et Martin Schulz, mais que j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour Mme Merkel. Alors après, il faut ajuster, il faut corriger. D'ailleurs, elle l'a fait. Et les flux sont en train de diminuer vers l'Allemagne. Mais ce qu'a dit Mme Merkel, c'est que quand, en effet, vous avez des régimes oppresseurs, que quand, en effet, vous avez des hommes et des femmes qui risquent leur vie pour leurs convictions, eh bien, le devoir de société occidentale et des sociétés européennes, c'est de savoir accueillir ceux qui en ont vraiment besoin.
Populations, comment convaincre les Allemands, comment convaincre les Français que ça ne va pas leur nuire dans leur vie de tous les jours, que ça ne va pas être des emplois en moins, que ça ne va pas être du pouvoir d'achat en moins? Comment vous leur expliquez ça aux Français?
D'abord, il faut être capable de réussir cet accueil. Et donc, ça passe en effet par de l'intégration. Ça passe par mettre en place des capacités de formation. Parce qu'un réfugié, c'est aussi quelqu'un qui doit pouvoir avoir accès.
Et vous entendez les peurs quand même des peuples.
Aussi, ça passe aussi par la protection de notre frontière commune européenne. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne a proposé, et ça se met en place, un corps de garde-frontières, de garde-côtes. C'est la raison pour laquelle nous mettons en place un fichier des passagers aériens. C'est la raison pour laquelle nous devons davantage coopérer au niveau de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle, en effet, Schengen peut être dans le débat, non pas pour le supprimer, pour l'amender et pour le renforcer.
Mais quelle lenteur dans la mise en place.
Ça, c'est un des problèmes de l'Europe. Parce que vous voyez, d'un côté, M. Trump signe des décrets, et nous avons des procédures très complexes. C'est une
raison pour laquelle...
C'est une des raisons pour lesquelles je souhaite qu'on renforce la démocratie européenne, l'efficacité européenne,
la visibilité européenne. C'est une raison pour laquelle les Anglais ont quitté l'Europe aussi.
Permettez-moi quand même de vous faire une remarque, parce que cette émission-là me rappelle une émission précédente que nous avons fait ensemble. Ne faites pas comme si l'AFD était un parti qui faisait 80% en Allemagne.
Non, mais il a monté.
Il monte, il est à 10 ou 15%, ce qui est trop, et c'est par les résultats qu'on le fera reculer. D'abord par les résultats économiques et sociaux, parce que la base de tout, elle est là.
Mais depuis
et ne faites
mission,
pas non plus comme si Madame
mission, les Anglais sont sortis de l'Europe.
Ne faites pas non plus comme si Madame Le Pen était présidente de la République française, elle ne le sera pas. Et ne faites pas non plus comme si la Grande-Bretagne était la France.
Donc, justement,
nous sommes encore des sociétés démocratiques avec des valeurs, et nous ne devons pas céder au Front National ou à l'extrême droite. Nous ne devons pas céder à l'extrême droite sous prétexte qu'il y a des problèmes.
Alors, Monsieur Moscovici, on va parler du commerce un peu. L'Europe passoire, c'est dans ce domaine-là également qu'elle est stigmatisée par ceux qui sont opposés à l'Europe de Bruxelles, en tout cas. Et cette nuit, Madame Theresa May, Premier ministre britannique, a dit, ben voilà, ça y est, j'ai commencé, on va commencer tout de suite les discussions avec les Américains sur les accords commerciaux qui entreront en vigueur uniquement lorsque nous aurons quitté l'Europe définitivement, mais elle contrevient finalement à ce que vous lui aviez dit, vous, la Commission de Bruxelles, pas de discussion avec les Américains tant que vous êtes encore en Europe. Alors vous pouvez l'empêcher d'agir à sa guise ?
D'abord une première réflexion. Monsieur Trump a déclaré devant Madame May que le Brexit était une chose merveilleuse,
oui.
Qui rendait à la Grande-Bretagne son identité.
Il a encouragé d'autres pays européens à suivre l'exemple.
Il a encouragé d'autres. Et moi, je le dis, entre les États-Unis et l'Europe, il ne doit pas y avoir ce type d'attitude qui consiste à chercher la division du partenaire. J'ajoute que non, le Brexit n'est pas une chose merveilleuse. C'est un problème, et pour le Royaume-Uni, et pour l'Europe. C'est un problème pour l'Europe parce que nous perdons un membre indispensable, utile, notamment à notre sécurité, notre défense, et parce que c'est une puissance économique, parce que ça posera des problèmes budgétaires. C'est surtout un problème pour le Royaume-Uni.
Bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. En termes de croissance, 2016 au Royaume-Uni est plutôt meilleure que celle du G7.
Mais dans les prévisions que nous faisons, nous voyons que cette croissance va diminuer fortement. Pourquoi ? Parce que je pense que les effets sont encore différés. C'est maintenant que l'incertitude va frapper les acteurs économiques et politiques. Et donc, on le sait, et d'ailleurs, le gouvernement britannique l'a prévu lui-même, il y aura une perte budgétaire et il y aura une perte de croissance.
Mais ma question était précise. Madame May, est-ce qu'elle peut faire ce qu'elle veut ou bien est-ce que l'Europe a des règles qu'elle doit respecter ?
Je pense qu'il fallait quand même le dire, parce que tout de même, cette espèce de propagande du Brexit, le Brexit est une mauvaise chose. Nous le respectons. D'accord. Parce que c'est un vote souverain pour le
c'est
coup.
Pas la question.
Mais nous regrettons. Alors, après, je n'ai jamais dit qu'il était interdit de discuter. C'est interdit à personne de discuter. Ce qui n'est pas possible, c'est de négocier. C'est quelque chose d'un peu différent. Mm-hmm. Autrement dit,
là, vous faites de la subtilité britannique.
Non, ce n'est pas du tout une subtilité. C'est, je pense, quelque chose qui est juridique et qui est très établi. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne est membre de l'Union européenne, jusqu'à ce qu'elle en sorte, pardonnez-moi, là, la palissade. Et ça prendra encore un certain temps.
Mais ça veut dire quoi, un certain temps ?
Si on regarde les textes, d'abord, il est important qu'il y ait la notification de ce qu'on appelle l'article 50, et ça interviendra dans quelques mois, après le débat parlementaire, et y compris avec une stratégie que Mme May s'est engagée à fournir.
Mais c'est plutôt un an, plutôt trois ans ?
Pour la notification,
pour le départ effectif
Après, vous avez une négociation qui peut durer jusqu'à deux ans. Et au bout de deux ans, vous pouvez soit constater que vous n'avez pas abouti, donc à ce moment-là, la sortie est automatique, c'est ce qu'on appelle une falaise, ou bien vous avez des phases de transition.
Elle ne négocie pas à l'heure actuelle, elle se contente de parler.
Oui, parce que pour ce qui concerne les accords commerciaux, les choses sont très claires, c'est l'Union européenne qui négocie pour le compte des États, sous le contrôle des États,
Vous n'allez pas aller dans les bureaux du ministre du Commerce britannique pour voir si c'est la négociation ou la discussion.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous ne verrez pas sortir un projet d'accord ou un accord.
Il sera dans le tiroir.
Ça s'appelle
de la négociation.
Non, la négociation, c'est encore autre chose. Juridiquement, il ne peut pas y avoir d'accord négocié par un État membre.
Est-ce que vous avez un moyen d'action pour empêcher ça ?
Empêcher des gens de parler ?
Non,
sûrement pas.
De négocier.
Ce moyen d'action est très clair, c'est que pour l'heure, la Grande-Bretagne est un pays membre.
Non, mais vous ne répondez pas. Oui, d'accord. Mais quel est le moyen d'action ? Si elle vous dit, moi, j'en ai rien à faire de vos règles.
Mais elle ne dit pas ça. D'ailleurs, elle l'explique de manière très claire. Il ne faut pas non plus entrer dans je ne sais quel monde spéculatif. Qu'elle est membre de l'Union européenne et que tant que la Grande-Bretagne restera membre de l'Union européenne, elle s'appliquera.
Alors, négociations,
elle s'appliquera les règles de l'Union européenne.
Elle s'appliquera avec les
États-Unis. Il n'y a pas de beurre et pas d'argent du beurre.
C'est-à-dire que si elle est toujours en Europe, qu'elle bénéficie des conditions de négociation commerciale, en même temps, elle discute avec les Américains pour l'accord commercial futur, elle a un peu les deux.
Mais pas du tout. Je pense qu'au contraire, vous soyez logique, puisque vous estimez que le Brexit est formidable, comme M. Trump, ou que vous semblez l'inférer.
J'ai dit qu'elle a tous les droits. Elle a le droit d'être en Europe et déjà de préparer.
On pourrait dire le contraire, qu'elle a les inconvénients des deux systèmes, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore d'accord avec les États-Unis et qu'elle a des accords contraignants avec l'Europe. Donc non, tout simplement, la Grande-Bretagne applique le droit européen et elle l'appliquera tant qu'elle sera membre de l'Union européenne.
Est-ce qu'elle aura des conditions commerciales, même par elle. Alexis Brazier. Avec l'Europe, puisque c'est ça la vraie négociation, celle qui s'engage maintenant, c'est le statut qui va être appliqué au Royaume-Uni. Est-ce qu'elle va avoir, par exemple, la clause de la nation la plus favorisée ?
C'est ça la vraie question.
Eh bien oui, mais...
Alors, je vais procéder par ordre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans la notification de l'article 50, donc la négociation commencera après. Votre... Il n'y a pas de, pour le coup, il n'y a même pas de discussion.
Mais votre avis à vous là-dessus, est-ce qu'il faut avoir un statut particulier pour les Anglais ou non ?
Je pense trois choses. Je pense, un, que nous, les Européens, avec notre négociateur Michel Barnier, qui était mon prédécesseur à la Commission européenne, nous allons défendre notre intérêt, comme la Grande-Bretagne va défendre les siens. C'est donc intérêt contre intérêt. C'est le propre d'une négociation. Je pense, deux, que Malmé a fait un choix que je trouve tout à fait rationnel, qui est de dire, nous ne serons pas dans le marché intérieur, donc les quatre libertés sont indissociables, bien, services, capitaux et personnes. Capitaux.
Elle voudrait bien trois sur quatre, elle voudrait bien tout sauf les personnes.
Elle a accepté la logique que finalement ça n'était pas possible, donc ce ne sera pas le marché intérieur. Donc,
quand même dit, l'accord final pourrait prendre en compte quelques éléments du marché unique dans des secteurs comme par exemple les services financiers.
Donc,
oui, elle est en train de vous dire, possibilité d'agir en Europe.
Pour ce qui nous concerne, nous considérons que ces quatre libertés sont indissociables.
Ou tout ou rien.
Et donc, il faudra négocier un nouveau type de relation avec le Royaume-Uni, qui sera évidemment proche, parce qu'il y a une chose que je partage avec Mme May, c'est de penser que le Royaume-Uni ne sera plus membre de l'Union européenne, mais qu'il sera toujours un pays européen. Et trois, quand vous êtes membre d'un club, et c'est les Britanniques qui ont voté les clubs, et quand vous n'êtes pas membre d'un club, c'est pas pareil. Et c'est moins bien de ne pas être membre du club. Autrement dit, la situation future de nos relations devra être moins bonne pour le Royaume-Uni qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Une question qui a l'air...
Beaucoup trop tôt, après, pour conclure du reste.
Alors, une question qui n'est pas anecdotique, c'est la langue du club. Aujourd'hui, dans les institutions européennes, on parle beaucoup anglais.
C'est vrai.
Mais
ça ne s'est pas arrêté depuis...
Mais alors, qu'est-ce qui va se passer le jour où le Royaume-Uni s'en va? L'anglais ne peut plus être langue officielle de l'Europe.
Je vous dirais deux choses là-dessus. Un, d'abord, l'anglais, il faut le reconnaître, c'est une langue internationale. Moi, je représente l'Union européenne au G7, au G20, à l'Eurogroupe, la réunion des ministres des Finances de la zone euro, à l'ECOFIN, et partout, on parle beaucoup anglais.
Mais
la française est une langue officielle. Et pour vous donner un exemple, chaque fois, je parle à peu près couramment anglais quand même, mais chaque fois qu'il y a un traducteur, je parle français. Et il faut affirmer et défendre la francophonie.
Quand il n'y aura plus les anglais, on continuera de parler anglais, vous nous dites.
J'imagine que oui. Alors, je ne vais pas vous laisser penser le contraire. Ce ne serait pas très raisonnable,
je crois, que
d'interdire l'anglais dans l'Union européenne. D'ailleurs, il y a encore d'autres pays, par exemple l'Irlande,
qui a retenu le gaélique.
Qui parle beaucoup anglais.
May I speak? OK, thank you very much. Madame May...
Je ne vais pas faire comme Manuel Valls et Benoît Hamon.
Madame May a menacé, si les Européens n'étaient pas suffisamment gentils avec elle, de créer un paradis fiscal aux portes de l'Europe, en Grande-Bretagne, en attirant les grandes compagnies internationales avec, effectivement, des avantages considérables. C'est une menace que vous prenez en compte ?
Là, je vais être plus net que le reste, parce que c'est un peu moins spéculatif pour le coup, parce que le reste dépend du calendrier, on est vraiment très très tôt dans le calendrier. Mais là-dessus, je vous le dis, la Grande-Bretagne ne peut pas être et ne sera pas un paradis fiscal. Alors, entendons-nous bien, il y a deux choses en la matière. La première, c'est la fixation des taux d'imposition sur les sociétés. Vous parliez de souveraineté des nations, c'est déjà libre. J'étais en Irlande mardi dernier. L'Irlande a un taux de 12,5% d'impôt sur les sociétés. La moyenne européenne est à peu près à 28%. Personne n'y peut rien. La fixation des taux est nationale. Et on ne peut pas contraindre. On pourrait le souhaiter. On peut souhaiter l'harmonisation fiscale. Je la souhaite. On ne peut pas contraindre un pays. Donc si demain la Grande-Bretagne décidait d'abaisser considérablement ses taux d'impôt sur les sociétés,
c'est pas un paradis fiscal.
Non, ce n'est pas un paradis fiscal. Laissez-moi aller jusqu'au bout.
Pour les entreprises.
Non. C'est de la compétition fiscale. L'Irlande n'est pas un paradis fiscal. Le Luxembourg n'est pas un paradis fiscal. Un paradis fiscal, qu'est-ce que c'est ?
Oui, mais enfin, comment on réagit ?
Attendez.
C'est toutes les boîtes internationales qui vont en Grande-Bretagne.
Ce qui permet l'attractivité d'un pays, ce n'est pas son taux d'imposition sur les sociétés.
Ça y contribue.
Non, c'est autre chose. Le paradis fiscal, c'est un pays qui est capable de mettre en place des mesures, qui sont des mesures qui permettent ce qu'on appelle la planification fiscale agressive, c'est-à-dire qui dérogent aux standards internationaux. Par exemple, vous avez des rescrits fiscaux, des prévisions d'impôts qui sont plus favorables qu'ailleurs. Vous ne procédez pas à l'échange d'informations avec vos partenaires. Vous êtes donc en train d'offrir des régimes.
Alors, ça sera le dumping fiscal.
Non, vous aurez la compétition fiscale, il faudra après tout de même compenser ces pertes de recettes dans une situation de déficit budgétaire accru, mais vous n'aurez pas de paradis fiscal au sens
où... Est-ce que vous pouvez par exemple menacer les Anglais qu'en cas de dumping fiscal, les taxes douanières seront plus fortes pour compenser. Je termine.
J'ai la conviction que la Grande-Bretagne, pays membre du G7, pays membre du G20, continuera à respecter les standards fiscaux internationaux.
Vous n'êtes pas sûr, en fait.
J'en suis absolument certain. J'ai une assez longue pratique de ça. Ça fait 5 ans que je suis dans ces instances. Et il n'y a aucune intention et aucune capacité à revenir sur ces accords.
Mais si elle est très compétitive fiscalement, comment on fera? Si l'impôt sur la société est à 10%,
Quand vous avez une compétition fiscale, qui encore une fois est déjà libre, ouais, mais votre
si elle est liberté, plus agressive,
votre liberté à vous, c'est d'y répondre ou pas.
Fiscalement.
Fiscalement, en effet. Mais après, ce sera des choix politiques qui seront posés aux différents gouvernements de l'Union européenne, chacun pour eux, puisque la fixation des taux, je le répète, est un apanage national.
On ne peut pas envisager que l'Europe dise, voilà, M. Trump, par exemple, il dit aux Mexicains, bah, puisque vous ne voulez pas construire le mur, je vais taxer les importations mexicaines. Là, mais on ne peut pas dire, on va taxer les importations britanniques.
Là, la question que vous posez, là, n'est pas la question du paradis fiscal, c'est la question du protectionnisme. Mmh. Et en effet, ce qu'on sent bien, c'est que M. Trump a décidé d'adopter une attitude protectionniste.
Ça vous inquiète, ça ?
Oui, ça m'inquiète, parce que je pense que le protectionnisme et le repli sur soi ne sont pas la réponse pour nos économies mondiales. Ça m'inquiète, parce que nous allons entrer dans une forme de guerre commerciale.
On va devoir répliquer, quand même.
Alors, j'y viens. Si, en effet, M. Trump décidait de taxer les importations et de subventionner les exportations, nous sortirions d'un paradigme de libre-échange qui est celui qui a dominé depuis maintenant une quarantaine d'années. Et il faudrait, en effet, réfléchir à ce que doit être notre réponse. Et pour moi, la réponse, quelle est-elle? La réponse, elle est offensive. C'est que si les États-Unis choisissent le repli sur soi, s'ils décident de ne plus commercer ou de mettre des obstacles au commerce avec tel ou tel, nous, les Européens, nous avons une opportunité fantastique à saisir. Et je le dis, je pense que le 21e siècle peut être européen. Je pense que Trump peut être une opportunité pour l'Europe.
Mais concrètement, on fait quoi ?
Que nous soyons capables, nous, d'échanger plus avec d'autres. Mais je pense par exemple...
Avec les Chinois ?
Oui, les Chinois. J'étais à Davos la semaine dernière, vous savez, cette réunion internationale où le président chinois était et où il a pris des positions beaucoup plus ouvertes sur la mondialisation. Je pense en effet que nous devons réfléchir à ce que nous faisons avec l'Asie. Je pense que les positions...
Mais on imprime déjà beaucoup, les Chinois vous l'importent en
Chinois. Je pense que les... Oui, et nous devons nous protéger aussi.
Mais c'est bizarre, parce que plus les autres montent leur barrière, nous, plus il faut abaisser les nôtres.
Je ne dis pas que nous devons abaisser les nôtres. D'ailleurs, ce n'est pas ce que nous faisons. Prenez par exemple l'acier chinois. Vous savez qu'il y a eu des mesures prises par l'Union européenne contre le dumping en la matière. Et donc, nous sommes tout à fait actifs. Ce que je dis juste, c'est que des espaces formidables vont s'ouvrir aux Européens, que nous devons justement travailler sur notre compétitivité, que nous avons une opportunité à saisir. Nous, ils veulent mettre des murs. Créons des ponts commerciaux, des ponts
avec
humains.
Mais avec eux, on fait quoi ?
Et ils veulent fermer les frontières et ne plus commercer avec d'autres. Soyons capables, nous, d'être des économies ouvertes, compétitives.
Mais vis-à-vis d'eux, vis-à-vis des Américains, s'ils montent leur tarification.
Il faudra en effet réfléchir.
Réfléchir, ça veut dire quoi ?
D'abord, je
vous ne voudrais pas le dire.
Mais j'ai dit wait and see tout à l'heure, je ne veux pas tout de suite faire des procès d'intention.
Allez, encore. Wait and see.
Attendons et voyons.
Alors, tout de même, votre livre, S'il est minuit en Europe, ça commence de façon très étrange. Prologue. J'ai fait un cauchemar, c'est vous qui écrivez, hein. J'ai fait un cauchemar. 2017, Marine Le Pen a remporté l'élection présidentielle
que ce sera un cauchemar.
En France. Attendez, si vous avez fait ce cauchemar, ça veut dire quand même que ça vous travaille.
Oui, bien sûr.
Ça vous travaille. Et alors, pourquoi l'Europe est-elle devenue le principal argument de ceux qui, justement, veulent retrouver une part de souveraineté en France? C'est vrai pour Marine Le Pen, c'est aussi vrai, même s'il ne partage pas du tout les mêmes options politiques, c'est vrai aussi de Jean-Luc Mélenchon, et c'est vrai finalement de la plupart des compétiteurs dans cette présidentielle française, parce que peu, pour ne pas dire aucun, ne défend l'Europe de Bruxelles telle qu'elle existe aujourd'hui. Pourquoi l'Europe est-elle l'argument qui permet d'envisager d'être élue présidente de la République ?
Je pense que si on veut comprendre ça, il faut d'abord se mettre un peu dans une perspective un peu profonde et regarder le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes dans un monde en crise, qui a été marqué par une crise qui dure depuis 2008. Bon, elle est maintenant derrière nous, mais les séquelles de la crise sont encore là. Et je pense, moi, que si nous avons des interrogations identitaires, et la question des réfugiés l'illustre, c'est d'abord, comme disait Bill Clinton, pardonnez-moi de parler anglais, it's economy stupid, c'est l'économie. La base de la crise identitaire, c'est une crise économique et sociale. Et les Européens estiment que l'Europe n'a pas obtenu suffisamment de résultats économiques et sociaux, ne les a pas assez protégés.
C'est vrai.
C'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle je pense deux choses. Je pense qui sont non pas contradictoires, mais complémentaires. Un, le fait de faire des campagnes européennes, anti-européennes, est voué à l'échec. Les Français et les Européens sont très attachés à l'Europe. Ils sont très attachés à la monnaie unique. très attachés à l'euro, parce qu'ils voient bien que là, il y a un élément de protection
et
de stabilité. Mais
chaque fois qu'on leur demande leur avis par référendum, ils répondent non, ça fait longtemps.
Sur l'euro, vous avez encore un consentement de 70%
certes,
en France.
Mais
je le vois, moi qui suis...
Pourquoi dans toutes les consultations au Danemark, en Irlande, en Suède, en France, en Hollande, en Grèce, les peuples répondent non? C'est ça la question d'Olivier.
Je viens au deuxième élément. Si on veut que les peuples répondent oui, il faut en effet élever le niveau de la réponse européenne.
Il faut plus d'Europe.
Il faut mieux d'Europe, une meilleure Europe. Il faut un sursaut européen. Il faut une construction qui donne plus de sens. Et dans ce livre que vous évoquez, j'évoque trois pistes. Et pour moi, elles sont fondamentales et indissociables. Un, il faut une Europe qui protège. Non pas une Europe protectionniste, mais protection sociale, protection commerciale, notamment protection commerciale pour ceux qui pensent qu'ils sont les perdants de la mondialisation.
Ça, sécurité, c'est vrai que l'Europe n'a rien fait pendant des
sécurité,
années,
défense.
Années. C'était pas du tout son credo.
C'est un sujet sur lequel nous devons maintenant élever le niveau. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'autre réponse.
Quand parce il y a
que
le feu.
Sinon, nous ne réussirons
mais
pas
quand
même.
Il y a le feu.
Les nations ne peuvent pas se protéger elles-mêmes commercialement et
mais vous rendez compte que depuis 10 ans, la preuve, ou 15 ans, je ne sais pas, la preuve inverse n'a pas été apportée. Donc ça nourrit mais le discours.
Je ne suis pas, moi, un européiste béat. Je ne suis pas quelqu'un qui dit tout va bien, madame la marquise. Je constate qu'il y a des difficultés. Je dis simplement que quand vous avez une difficulté européenne, un problème européen, la réponse, elle est aussi européenne.
Et les réponses, oui, vous dites la réponse, c'est par plus d'Europe
quand on
non, non c'est faire en sorte que l'Europe réponde aux questions concrètes qui taraudent les citoyens et là où ils attendent justement mes réponses. J'ai dit protection, mais je veux dire aussi démocratie et je veux dire surtout efficacité économique, notamment efficacité de l'euro.
On va reparler de tout ça après la pause. Juste une question complémentaire. Vous allez jusqu'à être contre les référendums. C'est pas très démocratique.
Bah oui, mais
25 secondes.
Non.
25 secondes.
Un référendum sur l'Europe, c'est toujours un outil qui blesse et qui divise. C'est un outil qui déforme, parce que répondre oui, non, c'est très simple.
Mais ça veut dire quoi, que les citoyens européens ne sont pas capables de répondre.
Il y a un très bon référendum sur l'Europe. Ça s'appelle l'élection. Je souhaite que l'élection présidentielle française soit le référendum sur l'élection sur l'Europe en 2017, que ce soit le cas en Allemagne, en Italie, que ce soit le cas aux Pays-Bas, et vous verrez qu'ensuite, on y verra beaucoup plus clair.
Un référendum, ça
prend du
temps, bien.
Et ça nous fait aller en arrière.
Ça tombe très bien, on va parler du référendum sur l'Europe, qu'est l'élection présidentielle française, après la pause des informations de 13h.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle.
Pierre Moscovici, juste avant la pause, donc vous avez qualifié la présidentielle française de référendum sur l'Europe.
Absolument.
Eh bien, Christophe Jacobicin a une question à vous poser à ce sujet.
Comme le seul candidat qui fait agiter des milliers de drapeaux européens dans ses meetings, c'est Emmanuel Macron, j'en déduis que c'est votre candidat.
Mon candidat, c'est la gauche européenne. Et je dis bien les deux à la fois. C'est l'Europe d'abord, parce que je pense qu'en effet, la France ne peut s'en tirer qu'en étant crédible, forte, puissante, avec des propositions et des résultats en Europe. Et c'est la gauche, parce que je pense qu'on a besoin aussi de solidarité, de justice.
Macron, c'est pas la gauche ?
C'est là où la difficulté se présente, si vous voulez.
Ça vous tente, mais...
C'est que... Je connais bien Emmanuel Macron, j'ai été ministre de l'économie et des finances, j'ai travaillé avec lui quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, c'est un homme intelligent, il a bien sûr une qualité politique qui saute aux yeux, puisqu'il est en train de créer un mouvement qu'il ne faut pas sous-estimer. J'ai des réticences ou des réserves par rapport à un certain nombre de points. Le ni droit ni gauche ne me convainc pas. Je pense qu'il y a une différence entre la gauche et la droite, qu'on a besoin de clarté.
– Une attente de l'opinion des électeurs.
– Oui, mais à la fin, on a des programmes, s'ils ne sont ni droite ni gauche, ou est droite et gauche, qui souffrent d'ambiguïté, c'est pas vous qui me direz le contraire, M. Brézet, du coup, la gouvernance du pays devient très compliquée.
– Sur l'Europe, il n'est pas ambigu, c'est le seul à porter cette idée d'Europe. –
Je termine sur mes réticences, réserves, questions. La deuxième, c'est que pour moi, un parti politique, je suis un militant de parti depuis très longtemps, c'est un parti où on débat, où il y a des opinions contradictoires, c'est pas un parti entreprise avec, au fond, une personne qui incarne le parti seul.
Un parti entreprise en marche ?
Un peu. On voit des techniques qui sont des techniques qui sont inspirées du monde de l'entreprise, avec aussi des techniques de motivation qui découlent de ça.
Avec un manager charismatique.
Avec un manager charismatique. Et pour moi, un parti, c'est un peu plus compliqué que ça. Et un pays, c'est plus compliqué que ça. Je pense pense que pour gouverner une société comme la société française, c'est un peu plus complexe que d'avoir un chef. Il faut avoir toute une série de mécanismes de ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment, c'est-à-dire donner du pouvoir à ceux qui décident, et pas à une seule personne. Après, c'est sur l'Europe, je le dis, il a compris l'enjeu. Et il ne cède pas, lui, à cette espèce de réflexe souverainiste, nationaliste, qui est au fond la fin de l'Europe et le déclin de la France. Ça, j'en suis persuadé. Il a compris qu'on avait besoin d'une France crédible, et que notamment sur le plan budgétaire, il ne fallait pas baisser la garde.
C'est beaucoup dans vos critères, ça, quand même.
Il a compris qu'il fallait un accord franco-allemand, il a compris qu'il fallait des outils européens.
En tant que commissaire, vous êtes pour Macron, en tant que socialiste, vous êtes
contre
Macron.
Non, c'est pas ça, parce que je pense que pour choisir un président de la République, il faut avoir des idées européennes. Les siennes sont bonnes. Enfin, ce n'est pas non plus des idées très originales, et d'autres ont pu les avoir avant lui.
Mais vous n'avez quand même pas trouvé désagréable qu'ils reprennent vos idées.
Pas du tout, je m'en réjouis. Je dis juste que je ne suis pas non plus dans l'admiration politique. Et la deuxième chose, ouais, c'est qu'il ne faut pas seulement l'Europe pour diriger un pays. Il faut aussi un programme, il faut une majorité, il faut un gouvernement.
Je comprends pas. Si c'est Benoît Hamon qui est désigné ce soir par les socialistes, ça sera votre candidat, ça sera Benoît Hamon, il répond plus aux critères que vous venez d'énoncer ?
Gauche européenne, je pourrais faire exactement le portrait symétrique. Je dirais que je suis un militant socialiste, un membre du Parti socialiste, que je reste un membre du Parti socialiste et que j'irai voter après cette émission à la primaire.
À quel bureau de vote vous irez, du coup ?
J'irai dans le bureau de vote où, non, j'habite dans le 6e arrondissement de Paris, j'irai dans le 6e arrondissement de Paris, 39 rue Saint-André-des-Arts, comme je suis allé la semaine dernière.
J'ai voté au premier tour. Quel que soit le vainqueur, vous le soutiendrez ?
Je suis aussi commissaire européen, je ne prends pas position dans le débat politique français, pas trop. Mon rôle à moi, c'est de donner des idées, c'est d'aiguillonner.
Vous
étiez pro-Payon au premier tour.
Est-ce que j'ai donné un sentiment ? Non. Est-ce que j'ai donné une position ? Non. Je m'y suis refusé. Ce n'est pas du tout mon rôle. Après,
tout le monde dit que vous étiez derrière Payon ?
Non. Vincent Payon est assez grand pour se pousser tout seul, pour aller de l'avant tout seul. Il n'est pas une marionnette et je ne suis pas un marionnettiste. Alors, c'est un ami, c'est autre chose. Et j'observe les idées des uns et des autres. Mais, encore une fois, je suis un citoyen, je vote. Je voterai ce soir, comme j'ai voté au premier tour, et je voterai à la présidentielle. Avec toujours le même boussole. Qu'on soit un homme de gauche, mais qu'on ne raconte pas de salade
ou
de
crack. Vous n'avez pas encore décidé
qu'on ne raconte pas de salade
qui ont été
racontées. Qu'on ne raconte pas de salade ou de crack sur l'Europe. Je ne laisserai pas l'Europe piétiner. Je ne veux pas que l'Europe soit peu traitée dans le débat et je ne souhaite pas qu'elle soit
mal traitée. Donc si Hamon la piétine, vous n'excluez pas de voter finalement Macron.
Vous savez si Benoît Hamon va être le candidat ce soir. Non, mais laissez-le.
À l'aune de l'Europe, c'est qui le. Comment vous jugez le programme européen de Hamon, par exemple ? Tiens.
Mais je vais attendre son programme.
Mais non, son programme, vous le connaissez.
Il a dit annulation des dettes accumulées depuis la crise.
Moratoire sur le pacte de stabilité.
Mutualisation des dettes européennes, rachat des dettes par la Banque Centrale Européenne.
Je vais dire les choses différemment. Si ce soir il est le candidat des Unis du Parti Socialiste, je lui fais la même offre que je fais d'ailleurs à tous les candidats, de droite et de gauche, sauf Marine Le Pen. Je suis prêt à les rencontrer dans mes fonctions de commissaire européen, pour leur dire où va l'Europe, ce que l'Europe peut faire, ce que l'Europe doit faire. Et je pense d'ailleurs qu'il est légitime que ces rencontres ou ce dialogue aient lieu. Et j'espère que du coup, un certain nombre de paramètres pourront être améliorés. Je vais en prendre un. Il y a deux jours, il a déclaré dans un journal, je crois que c'est 20 minutes, que sur l'Europe sociale, il fallait que l'Europe se teste parce qu'elle n'a pas de capacité, et que si elle continuait, on lui dirait au revoir et merci.
Voilà, il a dit, non, pas besoin qu'un technocrate bruxellois m'explique comment on rénove le marché du travail. Au revoir et merci la Commission.
Au revoir et merci la Commission. Eh bien non, ce sera bonjour et on en parle. J'étais lundi dernier à Bruxelles où il y avait une grande conférence organisée sur l'Europe sociale avec tous les partenaires sociaux, tous les syndicats européens et tous souhaitaient qu'il y ait une Europe sociale. Tous approuvaient la proposition de la Commission sur ce qu'on appelle un pilier européen des droits sociaux. Tous soutiennent la proposition de la Commission sur la directive sur les travailleurs détachés et on ne peut pas en rester à la situation actuelle. C'est pas possible, il faut qu'on ait un travail égal, un salaire égal. Donc, penser qu'on peut faire l'Europe, ou plutôt la cohésion sociale sans l'Europe, ça n'a pas de sens. Voilà le type de dialogue que j'aurai avec Benoît Hamon, mais je pourrais en avoir d'autres, avec Manuel Valls, avec François Fillon, avec les uns ou les autres. Je suis un homme libre. Et un homme libre
qui veut aiguillonner, encore une fois,
son pays pour faire en sorte qu'il soit crédible et engagé en Europe.
Compte tenu de toutes ces réalités, on sent quand même que finalement, celui qui vous paraît être le plus sérieux, celui qui raconte le moins de salade, c'est Emmanuel Macron.
Sur l'Europe, oui. Mais pour le reste, je le répète, je suis un citoyen engagé.
On ne va pas élire deux présidents de la République. Il y a un moment, il faut bien choisir.
Il faudra choisir. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, je n'ai pas choisi.
Cet après-midi, vous avez choisi, en revanche.
Oui. Je pense que cette élection présidentielle est une élection extraordinairement ouverte. Je vois qu'elle est mouvante, qu'elle est fluctuante, et je vois que les programmes ne sont pas des programmes classiques. Alors justement, ni à droite, ni à gauche. Et moi, peut-être parce que je suis maintenant un homme âgé, je vais avoir 60 ans, je suis né l'année du traité de Rome.
Vous êtes très jeune.
Ça va encore.
Si je peux me permettre.
Mais non, je plaisantais. Ça fait du bien de s'autoflageller de temps en temps. Mais c'est pas exactement ça le problème. J'ai un certain goût pour le classicisme. Je pense, par exemple, que le socialisme gagne à être une social-démocratie européenne. Je pense que quand on perd ce point d'équilibre-là, on perd une forme de cohérence.
Tous les partis sociaux-démocrates sont en perte de vitesse
absolument.
En Europe.
Absolument.
Alors,
eh bien,
pourquoi
je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y a le sortant et les sortants qui est quand même massif un peu partout. Et deuxièmement, le fait qu'ils ne se sont pas suffisamment distingués de la droite. Et je pense, moi, qu'il faut qu'on réinvente un socialisme qui soit totalement européen, mais qui soit aussi plus radical sur un certain nombre de points. Et je vais vous donner un exemple. La grande question pour nos sociétés aujourd'hui, celle qui crée le populisme, celle qui a fait l'élection de Trump, celle qui a fait le Brexit, celle qui fait la montée de Marine Le Pen et de l'AFD, c'est la question des inégalités. Quand vous avez, que ce soit dans le Wisconsin, dans le Michigan, à Sochaux, où j'ai été élu pendant 20 ans, dans certaines zones de l'Allemagne, par exemple, à l'Est, des gens qui se disent « la mondialisation me coûte, l'Europe ne me protège pas ». Et si vous n'êtes pas capable
ils ont vu l'Europe comme le cheval de Troie de la
absolument.
Mondialisation malheureuse.
Si vous n'êtes pas capable de créer, justement, une réponse européenne à cette mondialisation malheureuse, à cette mondialisation dangereuse, à ce moment-là, c'est le populisme qui gagne. Et donc, il faut que la social-démocratie soit capable de répondre aujourd'hui à la question des inégalités. Mais ça n'est pas contradictoire avec l'Europe. Je pense au contraire qu'on doit avoir une réponse économique de l'Europe, qui soit notamment une zone plus forte qu'aujourd'hui.
Ici, mais enfin, la mondialisation malheureuse, l'Europe
dangereuse,
elle y a contribué, l'Europe.
Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que l'Europe...
Dans son comportement, hein.
Je pense que l'Europe... Si je regarde, par exemple, la zone euro, c'est quelque chose qui m'occupe. Je suis commissaire chargé des affaires économiques et financières. Je siège à l'Eurogroupe. Je suis le négociateur de l'Europe avec la Grèce. Et donc, je connais ça un peu. Je vois que l'euro, comme disait Jacques Delors, référence encore insurpassable sur l'Europe, l'euro nous protège, mais ne dynamise pas. Si les Français sont aussi attachés à l'euro aujourd'hui, à 70%, c'est parce qu'ils voient bien qu'il n'y a plus de spéculation entre les monnaies européennes. Ils voient bien que c'est un élément de force dans le monde. Mais ils voient aussi que la zone euro a une croissance trop faible. Et il faut qu'elle se dote maintenant des outils, notamment un budget de la zone euro, qui lui permette d'augmenter sa capacité d'investissement.
Avec des impôts.
Non, parce que vous pouvez très bien avoir des transferts. Il y a un rapport
avec
qui vient
des dettes, alors.
Non. Et des dettes. Pourquoi pas ? Mm-hmm. Parce que, et ça c'était une question qu'on a posée, celle de la mutualisation, il se trouve, c'est une thèse qui existe depuis 25 ans, que l'Europe, elle, n'est pas endettée du tout.
Les Allemands ne sont pas tellement pour endetter l'Europe.
Alors, je vais y venir parce que ça c'est une question qui ne concerne pas seulement la gauche, mais qui concerne tout le monde, mm-hmm. y compris la droite. Je veux donner ici un message. Je pense que la France doit se poser la question de savoir comment elle peut créer de la convergence économique et sociale avec l'Allemagne.
Alors,
et pour ça, il faut qu'elle gagne la bataille de la crédibilité. Autrement dit, quand je parle des 3%, c'est-à-dire les critères de Maastricht, les critères de finances publiques...
Vous avez desserré un peu récemment.
La France y atteint maintenant, en 2017. Mm-hmm. Et je pense qu'il faut rester dans cette crédibilité.
Message à tous les candidats.
Tous les candidats. Je pense que ce que l'Allemagne attend de nous maintenant, c'est des réformes pour faire en sorte que notre économie soit plus compétitive et de la crédibilité budgétaire. Et en contrepartie des réformes et de la crédibilité budgétaire, moins de déficit, moins de dette, à ce moment-là, nous pouvons obtenir de l'Allemagne qu'elle fasse de la convergence économique, de la convergence sociale, qu'elle investisse plus pour elle et pour le compte des autres, et qu'elle accepte aussi qu'on fasse des avancées dans le cadre de la zone euro. Et donc, je lance cet appel avec beaucoup de solennité. Ne laissons pas tomber cette bataille de la crédibilité. Gagnons-la. Parce que cette bataille de la crédibilité, c'est aussi la bataille de la relance européenne. C'est synonyme.
Mais quel est le candidat de la présidentielle actuelle qui n'envisage pas de passer au-delà des 3%, au moins dans les premières ou deuxième année. Seul Manuel Valls dit, il l'a dit, je ne sais pas s'il est en possibilité de le faire, mais il a dit qu'il faut rester en deçà des 3%. François Fillon pense dépasser ces 3% allègrement, au moins la première année. incarnée, voire la seconde. Alors Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, les autres, franchement, les 3%, pour
et
eux...
Macron, c'est, on n'en sait rien encore.
Je ne suis pas là pour faire l'arbitre des élégances, mais encore une fois, pour dire des choses et pour aiguillonner et pour rappeler des vérités et aussi des engagements communs. Mais j'observe que tout ça est très mouvant. Je vais prendre l'exemple de François Fillon que vous citiez. Il y a peu de mois, François Fillon disait le déficit sera à 4,7%.
Ouais, il a baissé.
Il est maintenant à 3,7%. Il est allé en Allemagne, il a vu Mme Merkel, il a pris des engagements sur le retour à l'équilibre budgétaire en 2022. J'ai envie de dire, encore un effort. Je pense que il faut
donc
pas...
Donc ça plus d'austérité, les 100 milliards, c'est la bonne voie pour faire plaisir aux Allemands.
Non. Je pense qu'il y a plusieurs façons d'arriver à la crédibilité, qu'il y a justement des façons de gauche et des façons de droite. Ce que je dis simplement, c'est que ces engagements sont des engagements de bon sens. Les engagements de la France sur les 3%. Pourquoi ? Parce que nous avons une dette publique qui atteint bientôt les 100%. Que la dette publique, c'est ce qui pénalise les gestions futures.
Que la dette publique,
c'est ce qui empêche de financer les services publics. Tout euro consacré au remboursement de la dette est un euro en moins pour l'éducation, pour la justice, pour la sécurité.
Vous attendez une augmentation des taux d'intérêt, puisque vous parlez de dette ?
J'ai dit tout à l'heure que je surveillais cela. J'ai parlé de l'évolution américaine qui risquait de pousser, s'il y a une politique budgétaire exubérante, d'une part à la hausse des taux, d'autre part à la hausse de l'inflation.
Ça va arriver quand ?
Encore une fois, nous allons voir, justement, ça dépendra beaucoup du dialogue entre le Congrès américain et le président. On sent que le président a envie d'une politique très expansionniste. On sait que le Congrès, dirigé par M. Paul Ryan, est beaucoup plus sur une logique de...
Donc, comme vous dites, c'est pas le moment de s'endetter plus. Quoi.
Mais c'est pas le moment. Et j'ajoute qu'en Europe, nous avons des taux d'intérêt qui sont historiquement bas. J'allais dire, pardonnez-moi la palissade, je fais une confiance totale à M. Draghi. C'est quelqu'un qui vraiment maîtrise les choses. Et notre inflation, elle est très basse. Donc les taux d'intérêt vont être pendant assez longtemps bas. Mais par définition, ils ont vocation à monter un jour. Ça ne durera pas l'éternité.
Juste une information concernant la primaire de gauche. À midi, la fréquentation des urnes était en hausse avec 567 000 votants sur 75% des bureaux, donc plus élevé qu'il y a une semaine.
Tant mieux. Parce qu'il est important que cette primaire soit une primaire de crédibilité.
Vous n'étiez pas enthousiaste vis-à-vis du mécanisme de la primaire ?
Non. J'avais une idée assez simple, hein. Mais encore une fois, c'est mon côté classique que j'évoquais tout à l'heure. C'est que quand une formation politique est à la tête de l'État avec un président de la République, il ne faut pas organiser de primaire et il faut soutenir ce président. L'histoire s'est faite autrement, et cette histoire n'est pas une histoire gay.
Mais en plus, il n'a pas voulu se représenter, donc vous auriez peut-être été obligé d'organiser des primaires.
Il n'a pas voulu parce qu'il n'a pas pu, ou il n'a pas pu parce qu'il n'a pas voulu, je ne sais pas.
Il n'a pas pu parce qu'il y avait les primaires.
En attendant, je considère que le film du quinquennat, qui sera à réécrire plus tard, ou à revisiter plus tard, là, n'est pas ce qui est le plus heureux, oui.
Alors,
mais j'y vais quand même.
Puisque votre cauchemar serait une élection de Marine Le Pen à la présidence de la République, considérez-vous que les difficultés auxquelles se heurte à l'heure actuelle François Fillon, avec toutes les interrogations concernant le rôle effectif ou pas de sa femme comme assistante parlementaire, est de nature à faire monter le Front National ?
D'abord, première chose, il y a là une enquête. Il faut laisser la justice faire son travail. J'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Deuxièmement, on voit aussi l'intérêt d'avoir des règles qui soient des règles de transparence et d'éthique. Il faut vraiment que ce type de choses, qui est légal, soit mis derrière nous. Par exemple, au Parlement européen, c'est plus possible.
Dans sa famille, ses enfants,
etc. Et donc, je pense qu'il faut vraiment des règles qui soient très claires. Troisièmement, pour en venir à votre question, oui, et c'est la raison pour laquelle il faudra qu'il y ait des réponses qui soient apportées, parce que sinon, le soupçon, la rumeur, nourrit toujours le Front National, même si, il faut quand même le rappeler, s'agissant des assistants parlementaires, le Front National est quand même impliqué dans une discussion avec le Parlement européen, qui est une affaire. Donc ils n'ont pas le soin de donner. Un
élu municipal centriste a lancé une pétition adressée à Mme Fillon, intitulé « Madame Fillon, rendez-nous les 500 000 euros ». Et cette pétition a recueilli plus de 160 000 signatures en l'espace de 5 jours. Est-ce que, encore une fois, ma question est là, comment on se débarrasse d'un tel fardeau ?
Franchement, c'est à M. Fillon d'apporter les réponses, mais je pense qu'il faut aussi garder son sang-froid. Et je veux ajouter une chose. Cet après-midi, je crois que M. Fillon lance sa campagne, il fait un grand meeting, un grand discours. J'ai quand même envie qu'à un moment donné, on parle des programmes. qu'on parle des projets. Parce que je pense qu'une élection présidentielle, ça ne peut pas être uniquement des discussions sur tel ou tel problème. Ces problèmes doivent être traités. Il faut faire attention à l'impact qu'ils ont, mais il faut en revenir à l'essentiel.
Lui, il parle de boule puante, il sous-entend
C'était une expression du général de Gaulle, vous savez, qui avait refusé d'utiliser l'affaire de l'Observatoire contre François Mitterrand en disant « Vous m'avez utilisé des boules puantes ». Je ne veux pas connaître, et je ne sais pas quelle est l'origine de ça, je pense en même temps qu'il faut une réponse à cette affaire-là. Mais il faut aussi que la réponse soit de notre politique. C'est-à-dire qu'on parle programme, qu'on parle projet. Moi, ce que j'ai envie d'avoir comme débat, c'est le projet européen et le projet pour la France de François Fillon, comme des autres.
On en a une question encore sur ces affaires. Vous évoquiez le cas des élus, des parlementaires européens du Front National, qui effectivement sont aussi soupçonnés, c'est une autre affaire, d'avoir utilisé l'enveloppe allouée aux attachés parlementaires pour le parti. Marine Le Pen, hier, sur TF1, a dit que c'était un procès politique. Est-ce que, quand on gère ce type d'affaires au niveau européen, effectivement, est-ce que c'est un parti qui porte plainte contre un autre, et est-ce que ça se règle au niveau politique, ou est-ce que c'est une affaire qui est judiciarisée ?
Honnêtement, je ne connais pas exactement la procédure, mais c'est une affaire qui est à la fois politique et judiciaire. Et donc, je pense simplement que Mme Le Pen n'a pas de leçon à donner, qu'elle devrait d'ailleurs s'abstenir de cela, parce que s'il était vérifié que l'utilisation des assistants parlementaires qui sont là théoriquement pour travailler pour les parlementaires, en l'occurrence, était faite pour le compte d'un parti politique à Paris, c'est quand même pas anodin.
L'Europe lui demande de rembourser 300 000 euros avant mardi.
Ça n'est pas... Encore une fois, je laisse la justice faire son travail à tous les niveaux, et aussi les règles du Parlement européen être respectées. Mais en même temps, je suis lucide. Je sais bien que même si le Front National a commis en la matière des irrégularités, des erreurs, on ne lui en tiendra pas rigueur, que les formations politiques populistes sont à l'écart des jugements des formations démocratiques. Et quand on est dans une formation démocratique, pas dans une formation populiste, quand on est dans un grand parti politique, on doit être encore plus exemplaire. On a cette obligation. Après tout, on n'attend pas du Front National qu'il soit un parti propre sur ce point-là. On attend des grandes formations politiques qu'elles le soient complètement et que les éclaircissements soient donnés.
Une question qui vient d'un auditeur. Est-ce que le vainqueur de la primaire de la gauche a réellement une chance d'être élu président de la République ?
Ça va être compliqué. Mais je pense qu'il ne faut pas enterrer le Parti Socialiste. Encore une fois, je ne préjuge ni de mon vote, ni de la suite des choses. Je pense que c'est un courant politique qui est profondément ancré dans la société française, qui répond à une aspiration, c'est-à-dire du combat contre les inégalités. Et je pense que ce soit Benoît Hamon ou Manuel Valls, l'un ou l'autre ferait un bien meilleur score, bien meilleur, que les quelques 7, 8, 9% qu'on leur prévoit aujourd'hui.
Combat contre les inégalités, dites-vous, mais récemment, cette semaine, il y a eu beaucoup d'émotions à Amiens, tout simplement parce que l'usine Whirlpool est transférée en Pologne. Et là, ce n'est pas la concurrence vis-à-vis de l'extérieur, c'est la concurrence à l'intérieur même de l'Union européenne. Et ça, c'est quelque chose qui ne passe pas non plus.
Mais il y a tellement de choses qui ne passent pas, Olivier Mazerolle. C'est aussi, pour le coup, nous vivons dans un monde où il y a des mutations, et ces mutations, on doit être capable aussi de les anticiper. On doit créer la croissance de demain, une croissance inclusive. Et j'ai été pendant 20 ans député.
Mais d'accord, mais les ouvriers de Whirlpool, ils vous entendent, ils disent bon, il est bien gentil, monsieur Moscovici, mais enfin nous,
ici dans
on se retrouve le bec dans l'eau.
Dans une des plus grandes émissions de France, sur la plus grande radio de France, avec aussi des quotidiens, des télévisions de grande qualité. Vous savez, j'ai été pendant 20 ans élu à Sochaux. En 1980, je crois qu'il y avait 40 000 salariés chez PSA à Montbéliard. Il y en a aujourd'hui 10 000. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est à la fois défendre les industries traditionnelles, mais aussi prévoir les industries de demain.
La directive travailleurs détachés, ça, c'était pas une fatalité.
Trouver des réponses qui permettent à ces travailleurs d'avoir un autre emploi.
Les travailleurs détachés, c'est l'Europe qui l'a décidé, donc ça, on n'était pas obligé.
Mais Whirlpool, ce n'est pas les travailleurs détachés,
c'est
un problème de compétition.
Ça fait partie de ce malaise que ressentent les gens.
C'est la raison pour laquelle la Commission européenne a proposé un projet qui veut revoir cette directive.
Mais combien de temps ? Enfin, comment on a pu déjà
le faire maintenant ? Mais il y a une chose que je veux dire, parce que, franchement, vraiment, qui veut noyer son chien dit qu'il a la rage. La Commission européenne à laquelle j'appartiens n'est pas un super gouvernement de l'Europe. C'est la capacité de proposition, c'est celle qui fait les propositions et qui a les initiatives, mais ce sont toujours les États qui décident. Et cette directive sur les travailleurs détachés, elle a été adoptée par les États européens. Mmh. Il faut balayer devant sa porte. Arrêtons vraiment de tirer sur le pianiste bruxellois, parce que bien souvent, on lui fait porter des crimes ou des turpitudes qui sont des erreurs du gouvernement.
Aujourd'hui, la France, le gouvernement français actuel a demandé que cette directive soit rectifiée. François Fillon fait dire par M. Retailleau, qui était présent la semaine dernière à votre place, que si elle n'est pas annulée, c'est pas forcément la faute de la Commission, je suis d'accord, mais si elle n'est pas annulée, la France ne l'appliquera plus. Est-ce qu'il faut, 30 secondes, c'est la fin de l'émission, dans 30 secondes, est-ce qu'il faut rétablir ce qu'on a appelé le compromis de Luxembourg, c'est-à-dire la capacité pour un État d'émettre son veto si une décision communautaire ne lui convient pas?
Je pense, un, qu'il faut tout faire pour que cette directive soit modifiée, et deux, un petit point de droit quand même, une fois qu'une directive a été votée et acceptée par l'État membre, s'en retirer est extrêmement compliqué. J'aimerais qu'on m'explique comment on fait.
Merci Pierre Moscovici d'avoir été avec nous dans ce grand jury. Bon après-midi à tous.